France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et l'invité du grand entretien ce matin est écrivain, essayiste, journaliste. Ce sont ces trois manières d'écrire qu'il mobilise dans son dernier livre publié chez Grasset, intitulé « Un temps pour haïr ». C'est une enquête d'abord sur l'antisémitisme, très rapidement sur la violence terroriste en France. Une enquête née d'une insatisfaction intellectuelle face aux explications classiques qui ont été formulées après et autour des attentats. D'où ça vient et depuis quand? Pourquoi la France et pourquoi en France? Marc Weitzman, bonjour.
Bonjour.
Expliquez-nous pour commencer, pourquoi vous, le spécialiste de littérature, l'auteur de textes denses, intenses, sur l'écrivain américain Philip Roth, par exemple, pour n'en citer qu'un, pourquoi vous êtes-vous décidé à écrire sur ce sujet?
J'ai fait comme tout le monde quand les attentats ont commencé. Je suis resté incapable d'écrire quoi que ce soit et j'ai lu ce qui s'écrivait et je trouvais tout ce qui s'écrivait Olivier Roy, Gilles Kepel, je trouvais tout intéressant et en même temps insuffisant d'une certaine manière. Insuffisant parce que paradoxalement trop désireux de tout expliquer à travers une seule grille de lecture. Chacun avait sa façon d'expliquer les choses, la sociologie, la discrimination, la religion, le fanatisme. Mais tout ça restait complètement théorique. Et,
il manquait quoi, selon
il manquait, vous il manquait, il manquait ce que j'ai essayé de faire.
Essayons de le décrire.
J'ai parti d'une démarche à la fois plus humble et plus ambitieuse, qui était de montrer la situation plutôt que d'essayer d'apporter des réponses immédiatement et rendre compte de quelque chose, de la complexité de la violence à laquelle on avait affaire, sans renoncer pour autant à ma subjectivité. Il ne s'agissait pas de faire un bouquin qui soit absolu, il fallait faire un bouquin subjectif. Donc j'ai tout de suite pensé que le livre serait centré non seulement sur les faits, mais sur la manière dont les gens les racontent. Et donc c'est un livre sur la façon dont les gens racontent la violence, racontent la haine. Et quand je dis les gens, je veux dire pas seulement les victimes, mais aussi les djihadistes, ou en tout cas ceux que j'ai pu rencontrer, ou leurs familles.
Parce que vous allez y voir, vous avez rencontré des proches, des djihadistes partis en Syrie, vous transcrivez des conversations de parloir entre le frère de Mohamed Merah et sa mère. Vous avez d'ailleurs assisté à tout le procès du frère Merah. Vous vous rendez également à l'école juive de Toulouse où Merah a fait un massacre. C'est un travail d'enquête minutieux aussi. Qu'est-ce que vous cherchiez en allant y voir vous-même?
Je cherchais à essayer de comprendre quelque chose. C'est comme tout le monde d'ailleurs. Mais l'ambition du livre, c'est très vite devenu essayer de tout reprendre, de tout raconter. C'est-à-dire que beaucoup de livres s'écrivent sur ces questions. Mais je crois que je suis le seul à avoir essayé. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais avoir essayé de raconter toute l'histoire de la haine depuis le début jusqu'à aujourd'hui, en essayant d'y inclure tous les facteurs d'explication sans jamais s'arrêter à un seul comme définitif. Donc j'allais voir les gens et je me suis beaucoup intéressé à la manière dont ils parlent, dont ils racontent leur expérience de la violence et dont ils n'arrivent pas à en rendre compte en réalité. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que il y a un effet de sidération de la terreur et en même temps la violence est une narration en elle-même. Donc il s'agissait d'essayer de raconter le pays à travers ces récits fracturés, à travers ces voix diverses, pour essayer de trouver un sens en réalité.
Cette incapacité, Marc Weitzman, à raconter ce qui se passe, vous la rencontrez à l'école juive de Toulouse, où l'événement est euphémisé. On ne parvient pas à dire précisément, ou on préfère peut-être ne pas dire...
À l'époque, oui, en 2012.
À l'époque, voilà.
Oui.
Expliquez-nous.
C'est-à-dire que Mohamed Merah, les meurtres de Toulouse ont été, et de Montauban, mais surtout l'école juive, parce que les victimes étaient des enfants, ça a été un choc terrible. Et en même temps, comme ça a été le grand moment de la théorie du tueur solitaire, où il a fallu nier l'existence de forces djihadistes dans le pays. Cette négation, ce déni a donné du grain à moudre à l'extrême droite, comme on sait. Mais le point central, ce qui est apparu au fur et à mesure que j'écrivais, c'était qu'en fait, on avait affaire à deux discours populistes qui se tenaient la main tout en s'affrontant.
Décrivez-les.
D'un côté, le discours populiste islamiste, qui est un populisme exactement comme le reste, qui est une obsession identitaire comme les autres, et de l'autre, la résurgence d'un discours nationaliste identitaire de post-fasciste européen. L'un visant les cités, l'autre les cercles intellectuels, et c'est ce double discours qui a créé en France une espèce de toxicité qui fait que il est très difficile d'aborder ces questions sans sombrer dans les lieux communs des uns ou des autres.
Cette toxicité, Marc Weitzman, vous la voyez où aujourd'hui dans le débat public ?
Aujourd'hui, on en est revenu à mettre un peu tout sous le boisseau. Donc les agressions, quand elles se produisent, sont de nouveau psychiatrisées. La toxicité, elle est dans le refuge, dans les lieux communs. C'est-à-dire qu'on dénonce l'islamophobie, on dénonce l'antisémitisme militant. Tout ça, ce sont des vocabulaires, des mots qui ne permettent pas de penser la sauvagerie de la violence. C'est ça qui m'intéressait. C'était la manière dont derrière ces étiquettes, derrière ces clichés, la violence agit à l'extrême droite comme chez les islamistes, en laissant tout le monde sidéré. C'est-à-dire que plus personne n'ose parler. Dès qu'on dit quelque chose, dès que quelqu'un prend la parole, il va se faire accuser de d'islamophobie ou d'antisémitisme.
Précisez votre pensée, parce que là, quand on vous entend décrire le cheminement intellectuel de votre livre, vous mettez côte à côte l'extrême droite et l'islamisme, qui ne produisent pas aujourd'hui les mêmes effets tragiques. Parlez de discours, pas de concrétisation violente.
Il y a une violence qui est islamiste aujourd'hui, parce que pour des raisons historiques, parce que l'islam est certes aussi la religion la plus vivante aujourd'hui, donc mais les ennemis sont les mêmes, les ennemis de l'extrême droite comme les ennemis. J'étais frappé par la similitude des discours entre les militants du FIS et les militants d'extrême droite vis-à-vis de la démocratie, la féminisation de la société par exemple. Les ennemis sont les femmes, les ennemis sont la démocratie, les ennemis sont le libéralisme, les ennemis sont l'Amérique. C'est des discours qu'on entend aussi bien dans les cercles islamistes que chez des turiféraires de la droite identitaire. Ils viennent du même endroit. Ils se traduisent pas de la même manière, parce qu'il y a un passage à l'acte qui est immédiat aujourd'hui dans le djihad. Mais la cible est la même. C'est-à-dire, la cible, c'est nous, en fait. Hein. Quand je dis nous, je veux dire ceux qui cherchent à défendre le libéralisme et la démocratie. Hein.
C'est ça le combat.
Oui. Oui.
Et il est partagé selon des modalités différentes, mais en tout cas intellectuellement, la critique de ce monde-là est la même. C'est ça ce que vous voulez démontrer.
C'est ça qui est difficile à penser, c'est que les tenants de la droite identitaire comme les djihadistes se battent au nom d'un idéal transcendant. Quelque part, c'est ça qui est compliqué à penser, c'est que la religion et le nihilisme se mêlent aujourd'hui. C'est une seule et même chose. C'est au nom, il faut dépasser la vie petite bourgeoise. Il faut dépasser la bourgeoisie, il faut remettre en cause les conventions, il faut, au nom d'une vie plus haute, on va tout détruire. Ça crée une espèce de fascination. On est presque envieux de cette pulsion de destruction.
Et c'est comment ça?
Regardez, si vous lisez par exemple ce que Virginie Despentes avait écrit, avait dit aux inoccupables après les attentats de janvier par exemple, ou si vous dites...
Oui, parce qu'on la retrouve dans votre livre. Expliquez-nous pourquoi.
Quand elle explique qu'elle a aimé aussi les djihadistes et leur maladresse, quand vous écoutez Zemmour qui parle du respect qu'il a pour les tueurs, on sent bien qu'il y a quelque chose, une sorte de fascination qui remonte assez loin, hein, qu'on trouvait aussi déjà à l'époque chez Jean Genet, une fascination pour ce truc, cette pulsion non bourgeoise de tout détruire. Mmh. Voilà. Je suis maladroit, je ne respecte pas les codes et je détruis tout au nom d'un non pas nécessairement d'un idéal supérieur, mais d'une colère supérieure, d'une rage supérieure qui est ma véritable identité, mon authentique identité. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve aussi bien à l'extrême droite que chez mmh. les djihadistes et qui fascine tout le monde.
C'est un temps pour haïr, dites-vous. Pourquoi est-ce un temps aussi pour passer à l'acte ? Est-ce que dans cette enquête que vous avez menée par insatisfaction, vous mmh. avez pu vous approcher de cette question-là ? Parce que, je le dis et je le redis, il peut y avoir des proximités idéologiques et votre livre est aussi là-dessus, mais il se trouve que le passage à l'acte, il est du côté du djihadisme aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez, vous avez pu l'analyser
Oui, très concrètement, ce double courant est né et a ressuscité sur les ruines de la guerre froide. Hein. C'est clairement la fin des grands discours qui avaient structuré la France et l'Europe pendant la guerre froide, qui permettent la réémergence de discours nihilistes et révolutionnaires. Mais ce qui s'est passé concrètement, c'est la guerre civile algérienne. Je pense que ça a été déterminant. L'arrivée de militants du FIS et du GIA en France au début des années 90 a initié la révolution salafiste française de l'islam de France, ça a déterminé toute la suite, je pense. Mmh. Les réseaux étaient là, leur existence a été niée parce qu'on les a laissés venir et que politiquement c'était impossible à assumer. Mais la constitution de réseau s'est faite dès le début des années 90, dans le sud-ouest, autour de Toulouse notamment. Mohamed Merah vient de là. Et on se rend compte que la plupart de ceux qui sont passés à l'acte en France sont liés d'une manière ou d'une autre à des gens du FIS ou du GIA. Donc ça a été, politiquement et idéologiquement, ça a été déterminant. Mmh. La guerre civile il y a eu 200 000 morts en Algérie, hein. Donc ils sont venus avec ce bagage-là, mmh. Avec ce sang sur les mains.
Comment analysez-vous le succès d'un Éric Zemmour? Je le redis, il est dans votre livre, hein, mais on a eu la manifestation bruyante ces derniers jours de cette espèce de fascination ouais. qu'il exerce. Ouais. Comment l'expliquez-vous? Est-ce que la France vit une crise identitaire? Est-ce que c'est juste un épiphénomène médiatique? Comment vous regardez ça?
Les deux, en l'occurrence. Hein. Zemmour lui-même, je pense, est un épiphénomène médiatique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui surfe sur quelque chose de profond, sur une crise profonde. Et cette crise, elle vient de il y a une crise identitaire française qui probablement, dont le dernier épisode est certainement l'effondrement des grands discours dont je parle, la fin du gaullisme en particulier, hein. Quand après la fin de la guerre froide, la droite a fait des gorges chaudes sur la gauche et sur la fin du socialisme parce que l'URSS s'effondrait, mais la droite se trouve en réalité dans la même situation. La mort du gaullisme ravive des discours de droite qui viennent d'avant le gaullisme, qui viennent des années 30.
L'obsession. Pourquoi ça prend aujourd'hui?
Alors c'est une question. Est-ce que c'est vraiment ça qui prend ou est-ce que c'est simplement la capacité de certains à dire des choses ignobles avec le sourire devant des caméras de télévision? C'est pas forcément le contenu. Il y a le contenu d'une part et en particulier la réconciliation Pétain de Gaulle qui correspond à quelque chose dans une espèce de désir de dépasser la culpabilité liée à la Seconde Guerre mondiale, mais beaucoup plus que ça, ou au moins autant, il y a ce truc nihiliste, punk, d'admirer quelqu'un qui dit n'importe quoi devant les caméras de télévision avec aplomb, ça marche toujours. Mmh. Plus c'est ignoble, mieux ça passe, d'une manière générale.
Pouvez-vous, au terme de votre enquête, et avant de retrouver les auditeurs de France Inter, pouvez-vous, Marc Weitzman, dire pourquoi la France a été à ce point visée par le terrorisme? Pourquoi la France elle-même?
C'est une des questions que j'essaye d'aborder dans le livre. Je crois qu'il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Je le disais tout à l'heure, l'arrivée des militants du FIS et du GIA en France a été un facteur déclenchant, j'en suis certain. Mais il y a aussi un imaginaire français post-impérial vis-à-vis de l'islam et de la question de ce qu'on appelait autrefois l'Orient, qui joue un rôle qui est compliqué à analyser ici au micro en deux minutes, mais qui il y a une longue histoire de la fascination anti-moderne de la France pour l'islam comme alternative à la crise de la modernité. Et ça, je crois que ça a joué un rôle. Au début des années 80, par exemple, quand les enfants des immigrations d'immigration au moment de la marche des beurs, quand les enfants d'immigration réclamaient la fin des discriminations de fait, par quoi est-ce qu'on leur a répondu ? On leur a répondu en les renvoyant à la beauté de leur culture. C'était pas nécessairement ce qu'ils demandaient. On a transformé un combat pour les droits civiques en combat culturel sur fond religieux. Il y a une fascination de ça. Je pense que ça a joué un rôle dans l'aveuglement et dans une sorte de complaisance.
Est-ce que le fait d'être écrivain et de vivre dans les livres, dans la littérature, apporte la moindre clé supplémentaire à la compréhension de ce temps pour haïr, de cette brutalité qui se déchaîne ?
Je crois que il y a dans le fait d'écrire de cette manière, c'est en essayant de d'écrire de manière littéraire, pour employer le terme, un type de vérité qui est peut-être, c'est ce que j'essayais de dire en commençant, une forme de nuance qui n'apparaît pas nécessairement dans les écrits théoriques, quoi. On peut essayer de montrer les choses sans nécessairement les résoudre, mais en donnant à voir et en donnant à réfléchir si possible, sans conclure nécessairement sur ce qu'il faudrait faire ou sans impératif de conclusion, quoi. C'est un miroir qu'on essaye de tendre.
Comment avez-vous vécu le procès du frère Mera auquel vous avez assisté, vous justement, comme écrivain ?
C'était fascinant. C'était fascinant.
Pourquoi ?
De voir le... Parce que soudainement, on avait les discours, justement, on avait la narration, on avait la façon de parler des gens directement sur place, et puis on avait ce mélange invraisemblable, en particulier sur le procès Mera, de haute pathologie et de politique. C'est-à-dire que tout le débat autour de est-ce qu'ils sont fous ou est-ce que c'est des fanatiques ou est-ce que c'est des idéologues, des militants, ce débat ne tient pas debout. On peut être les deux, bien sûr. Ce qui est intéressant et ce que la littérature permet de faire, c'est de rendre compte de ce mélange de vie intime fracassée de l'intérieur et de grande histoire. C'est ça qui rend les choses presque inévitables.
On se dirige vers le Standard. Alexia nous appelle et nous attend. Soyez la bienvenue. Bonjour.
Bonjour Monsieur Demorand. Bonjour Monsieur Weissmann.
Bonjour.
Merci à Monsieur Demorand d'avoir invité Monsieur Weissmann. C'est vraiment extrêmement intéressant. Moi j'ai une question. Alors on a beaucoup parlé d'islamisme. Moi c'est plutôt l'antisémitisme. Il se trouve que j'habite à 500 mètres. J'ai vu sur Twitter une photo d'une porte sur laquelle était écrite ici vivent les juifs, notamment au troisième étage, ce qui nous ramène quand même 75 ans en arrière.
C'était une porte rue Ordener dans
exactement.
Le 18e arrondissement de Paris.
C'est
la photo,
ça.
Effectivement, est apparue sur Twitter il y a quelques jours.
Et effectivement, et ça m'a d'autant plus touchée que j'habite à 5 minutes. Donc voilà, et que c'est un quartier assez cosmopolite, assez métissé. Voilà. Donc dans le même temps, Monsieur Zemmour, vous m'avez parlé, vend pléthore de livres. Je voudrais savoir où est-on de l'antisémitisme aujourd'hui en France.
Merci pour cette question, Alexia. Pardon, massive, et grâce à vous, on y arrive parce qu'elle est au cœur du livre de Marc Weissmann. On en est où ?
On en est où ? On en est au fait que une des choses qui m'a frappé, c'est que une semaine avant les attentats de Charlie Hebdo et de Liberkacher de Vincennes en janvier 2015, c'est-à-dire à la fin de l'année 2014, on comptait 800 incidents anti-juifs dans le pays, c'est-à-dire plus de 2 par jour. Hein, c'est le chiffre confirmé par le ministère de l'Intérieur. C'est un chiffre incroyable et ça a baissé depuis. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir quel lien il peut y avoir entre ce chiffre de concernant des brutalités spontanées non politiques et des attentats planifiés qui visent potentiellement tout le monde. Il semble que les incidents anti-juifs tels que j'ai pu les appréhender, enfin les découvrir, sont caractérisés par quelque chose, par une espèce de pulsion totalement spontanée et invraisemblable. C'est souvent absurde.
Expliquez.
Par exemple, c'est quelqu'un qui se précipite sur quelqu'un d'autre avec un marteau en lui disant sale juif, je vais te tuer. C'est pas quelque chose, ou même les meurtres de Mireille Knoll et de Sarah Halimi, sont des moments pulsionnels, contrairement à ce que disent les responsables de la communauté juive d'ailleurs. C'est pas des actes de militants, ce sont des actes pulsionnels dont on ne sait pas à quoi ils correspondent. Et pourtant, il y a un lien entre cette pulsion et des attentats beaucoup plus idéologisés qui ne visent pas nécessairement les juifs. quel est le lien ? Comment se fait cette dynamique de violence ? Comment cette énergie est finalement structurée, mise en forme par le discours islamiste par la suite ? C'est ce que j'essaie de creuser dans le livre. On en est où aujourd'hui pour répondre à la question ? On en est au fait que les grands attentats ont disparu. Enfin, en tout cas, il n'y a plus d'attentats aussi spectaculaires qu'il y a eu entre janvier 2015 et juillet 2016. Il y a des choses beaucoup plus, comme on sait, marginales et l'antisémitisme a relativement baissé par rapport à 2014, mais reste à un niveau anormalement haut, et les agressions sont plus violentes qu'elles ne l'étaient auparavant. Donc on assiste à comme s'il y avait une sorte de mise en réserve d'une énergie qui attend d'exploser à nouveau.
Hervé, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue, bonjour. On vous écoute, Hervé.
D'accord. Oui, je voulais d'abord vous remercier pour ce que j'entends, parce que ça me donne très envie de lire ce bouquin qui sort un peu du manichéisme et des oppositions trop faciles entre les uns et les autres. Et en écoutant ce matin...
Vous en sortirez de cette lecture, Hervé, sans doute avec plus de questions que de réponses, mais c'est aussi ça un bon livre. Je ferme la parenthèse.
Ouais, mais je serai peut-être sur le chemin justement des réponses et de façon peut-être plus...
Chemin est toujours important.
Mais bon, vous m'avez donné envie en tous les cas de le lire.
Alors allez-y, on vous écoute.
Voilà. Et donc, moi, ce qui a surgi, c'est en fait, quand j'ai écouté tout ça, c'est en fait ce que pense votre, l'invité de la peur, en fait, qu'il y a dans la communauté juive actuellement. Moi, je la constate. Je suis juif moi-même, pas très ultra religieux, hein. Je suis observant, je fais kippour, enfin, voilà, mais je suis complètement inséré dans la société française, je vis à Bordeaux, enfin, etc. Et je vois partout une peur. Je vois des gens de 35-40 ans qui ont des enfants, qui vivent dans le 16e arrondissement ou qui vivent dans le 19e et qui ont peur, en fait. Moi, je vois dans ma famille, j'ai un nom qui n'est pas à consonance juive, voilà, je m'appelle pas Ami Cohen Lévy, mais du coup, ça me...
Mais vous avez peur, vous-même, Hervé ?
Moi, en fait, quand j'entends tout ça, je me pose pas la question, moi, de l'alia ou d'un retour et tout ça, parce que je me sens complètement français et attaché aux valeurs de mon pays, hein, les valeurs des Lumières et tout ça, mais en même temps, je me dis, c'est vrai qu'il y a une telle blessure, en fait, par rapport à ce qui s'est passé, etc., que ça fait écho, en fait, quand je vois qu'un...
Vous vous dites quoi, Hervé? Vous vous dites quoi?
D'abord, j'ai une peine, moi. J'ai une peine, et je me dis, en cas d'urgence, il y a au moins un État. Enfin, vous voyez, je me dis, voilà. C'est très, très primaire, peut-être, comme réflexe.
C'est-à-dire, en cas d'urgence et d'antisémitisme massif en France, vous, juif, vous pourrez partir en Israël?
Écoutez, moi, juif, oui, plutôt intellectuel, plutôt avec des diplômes, etc., je me dis que si ce pays que j'adore commence à délirer, si ça part un peu en vrille, on va pas attendre, attendre non plus, voilà, parce que quand on voit que on s'en prend à des enfants, moi j'ai un neveu qui peut pas porter une kippa dans le 19e à Paris, où on vous dit non, ne la mets pas, et le gamin il va à l'école, c'est difficile.
Merci,
voilà. Donc je voulais avoir, qu'est-ce qu'il en pense?
Je vais lui transmettre le témoignage et la question. Merci Hervé. Marc Weissmann.
J'en pense que oui, effectivement, ça fait plusieurs années, ce sentiment d'inquiétude, de peur diffuse, plus ou moins diffuse, et ça fait plusieurs années que ça dure.
Vous l'éprouvez, vous ?
Je n'ai pas de kippa dans la rue, mais il m'est arrivé de faire attention dans le métro à ce que je lisais, par exemple.
À ce que vous lisiez ?
Oui. Par exemple.
C'est-à-dire
Oui, de ne pas se balader avec un livre trop ostensiblement marqué juif, par exemple. Oui, bien sûr.
Tombe de ma chaise, là.
Oui, mais bien sûr. Mais ceci dit, pour répondre au témoignage, c'est difficile. Le problème avec la peur, c'est qu'on ne sait jamais quand elle est justifiée ou quand elle n'est pas. Quand on croit qu'elle ne l'est pas, elle le devient. Quand on croit qu'elle l'est, il ne se passe rien. C'est compliqué. Pour répondre à ce témoignage, c'est vrai que je crois que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit le livre, c'est qu'il me semble que la France a servi de laboratoire à la violence ces derniers, depuis 17 ans. Après, ça a commencé avec le 11 septembre, c'est certain, mais il y a une espèce de dynamique qui s'est mise en place. La France a été frappée comme aucun pays d'Europe, en tout cas. Et il me semble aujourd'hui, cette vague d'illibéralisme soit musulman ou d'origine occidentale, est partout. La source est française, mais le résultat est partout sous des visages différents, sous des formes différentes, pas nécessairement de façon aussi sanglante que dans les pays arabo-musulmans, mais c'est mondial. Donc ça sert à, tout ça pour dire que ça ne sert pas nécessairement à quelque chose de partir.
Merci Marc Weissmann. Un temps pour haïr chez Grasset. Le livre fera débattre, je pense. Mm-hmm. Permet déjà aussi de débattre parfois durement avec soi-même, dans sa propre tête, comme lecteur. Merci d'être venu à France Inter pour nous livrer les grandes lignes et les fondations de votre réflexion. Merci encore. 8